Vieille Radio, le magazine féminin nouvelle génération. Hey, un petit carrot, hang it up, daddy, or you'll be alone in a quick. Hang a petit carrot, hang it up, daddy, or you'll never get another fix.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans Vieille Radio, l'émission féminine nouvelle génération. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine dédiée aux femmes, évidemment, hein, et nous consacrons cette émission au sujet du dossier qui est à lire dans le numéro 21 de YEG, en ligne sur yegmag.fr, à savoir donc le féminisme, ou plutôt ce qui fait peur dans le terme féminisme, une peur que l'on a souvent vue dans le regard des interviewés, ce qui nous a justement poussé à nous interroger. Alors avant de commencer, je vous présente celle qui m'entoure sur ce plateau. Elle est à mes côtés chaque semaine, vous commencez à bien la connaître, Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Bonjour Marie.
Bonjour Marine.
Tu t'intéresses cette semaine à la fameuse phrase, oula, je ne suis pas féministe, mais...
Voilà, j'ai essayé de savoir ce que les femmes pensaient du féminisme et les réponses ont été assez variées, je vous les résumerai tout à l'heure.
Super, on va voir tout ça. Donc elle se revendique féministe et n'en a pas peur, il s'agit de Lydie Porret qui a fondé avec Patricia Godard l'association Histoire du féminisme à Rennes. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Merci donc d'être avec nous. On discute ensemble dans le 10 minutes avec et vous pouvez lire son interview dans le numéro 21 de YEG évidemment. Au sommaire, vous l'avez bien compris, on parle féminisme à travers deux associations féministes rennaises, mais aussi à travers le point de vue d'habitantes de 18 à 55 ans. Et on se baladera également dans le Rennes féministe des années 70, dans le 10 minutes avec Lydie Porret. Et bien évidemment, vous retrouverez en fin d'émission votre agenda des bonnes sorties. Quand on parle de féminisme, on sent parfois le poil de l'interlocutrice se dresser et on devine une lueur de peur et d'angoisse dans ses yeux. Si les plus de 20 ans, voire bien plus, soyons clairs, revendiquaient fortement et fièrement leur appartenance à ce mouvement dans les années 70, ce dernier est quasiment devenu la bête noire de la jeune génération qui préfère parler d'égalité des sexes, mais alors qui a peur du grand méchant féminisme ? Ce n'est pas dans l'air du temps de faire des actions collectives pour dénoncer des inégalités. C'est ce que nous explique Isabelle Pinault, coordinatrice de l'association Question d'égalité, créée à Rennes en 2010. Le décor est planté, le manque d'engagement et de mouvement unitaire est sociétal. Même son de cloche du côté des militants de Mixité Rennes, association lancée en 2002. On a du mal aujourd'hui à se définir communiste, anarchiste, féministe. Ce dernier est chargé d'histoire et surtout de clichés. C'est ce que souligne Aude Lebras, donc de l'association Mixité. Toutes les deux s'accordent à dire que le terme donne le vertige, il devient presque péjoratif, quasiment une insulte. Et quand on pense féminisme, on pense chienne de garde, femme à barbe et à poil, anti-homme, rabat-joie, etc. Les clichés s'accumulent autour des militantes et deviennent aussi nombreux que les images dégradantes associées à la gente féminine. Des stéréotypes en partie dus à la surmédiatisation d'actions nationales et internationales radicales, telles que les fémènes, qui parlent de sextrémisme, apparaissant souvent seins nus afin de défendre les droits des femmes. Il y a une frilosité de l'élan féministe. Le mouvement est mal connu et souvent associé à un combat inutile ou extrémiste, commente Aude Lebras, pour ne pas dire qu'aujourd'hui on banalise l'égalité des sexes. Pour elle, les différents courants du féminisme se mélangent dans les esprits, interférant ainsi sur le discours. Autre obstacle pour Isabelle Pinault, l'illusion que l'égalité est déjà là. Ne pas penser que la lutte n'a plus lieu d'être, diffuser le savoir, les connaissances sur la thématique des inégalités au grand public, tels sont les principaux objectifs de question d'égalité qui se définit dans une phase de prise de conscience et d'analyse, une phase qui est utile avant l'action du quotidien. Donc conférences et débats sont organisés par l'association et animés par des militantes, des universitaires, des professionnels du droit ou du social par exemple, avec une autre forme plus ludique aussi afin de toucher un plus large public, c'est la conférence gesticulée. Intitulée « Le clito, un petit nom qui en dit long, plaisir et politique au pays de la sexualité féminine », cette conférence gesticulée qui quand même, avouons-le, attise la curiosité, fait friser l'œil et sourire malicieusement, est proposée par sept femmes qui sur scène évoquent leurs expériences et leurs analyses quant à leur sexualité, hétéro ou homo. Le but est d'expliquer en quoi la sexualité est traversée par la question des inégalités et en quoi cela impacte les femmes, souligne Isabelle Pinault. Il est nécessaire de briser les tabous, de s'émanciper, de s'épanouir dans son désir. Nécessaire également de comprendre que revendiquer des relations égalitaires, réciproques et respectueuses ne signifie pas forcément partir en guerre contre les hommes, loin de là, ni même avoir une dent contre eux. Pour Aude Lebras, le féminisme, ce n'est pas un bloc. Elle nous dit « Il y a plusieurs pensées différentes, mais pas de ligne préconçue. Ce sont les militants qui font le mouvement. » A noter donc qu'une conférence est organisée par les deux associations en partenariat le 17 janvier sur la question des représentations dans la littérature jeunesse, un débat qui sera animé par Sylvie Cromer, sociologue et spécialiste des représentations du genre. En conclusion, il est difficile aujourd'hui d'attirer de nouveaux bénévoles, que ce soit pour question d'égalité ou pour mixité. Aude Lebras nous dit « La France repose sur ses acquis alors qu'ils sont encore à défendre, voire même à regagner. » À savoir qu'en Espagne, donc pays progressiste en matière des droits des femmes, un projet de loi a été présenté fin 2013 par le ministre de la Justice qui prévoit de restreindre le droit à l'avortement. Pour Isabelle Pinault, il est également temps de sonner la tirette d'alarme. La forme des combats a évolué, certes, et la génération Internet s'active maintenant sur les réseaux sociaux, les blogs et les Tumblr. On peut citer mademoiselle.com, auféminin.com.fr ou encore Je connais un violeur. Mais ne s'engage pas en prônant l'égalité homme-femme. Se définir féministe, c'est faire un lien entre les militantes du passé et celles d'aujourd'hui, explique Isabelle. Alors la peur du loup démontrerait-elle véritablement un manque de conviction ou d'engagement ? En tout cas, le terme n'a pas fini de diviser et de rebuter, et c'est bien dommage. On continue de parler féminisme dans le 10 minutes avec Lydie Porret, tout de suite après une pause musicale, en compagnie de Charlotte Gainsbourg avec In the End.
It's all coming to crumbs on the table and mud on these shoes. Treading so long, I can't see where we've been. Tracks on the trail and nails digging in. Who's to say it's all for the best?
La très jolie chanson In the End de Charlotte Gainsbourg, elle rend un peu nostalgique quand même. Mais c'est pas grave, on va vous remettre dans l'ambiance avec la suite de Yeg Radio. Hein. On est comme ça, on aime bien les ascenseurs émotionnels. Hein, hein Marie ? Marie est dans la lune ?
Pas du tout, Marie. Je t'écoute, je te laisse continuer dans ton travail.
Merci Marie. Lydie Porret, vous avez créé avec Patricia Godard l'association Histoire du féminisme à Rennes et vous proposez toutes les deux des visites guidées particulières, hein, puisque vous nous emmenez à la découverte du Rennes féministe dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept de visite guidée ?
Alors en fait, avec Patricia Godard, on avait accumulé des informations suite à nos recherches sur l'histoire des luttes féministes à Rennes. Et nous avions envie d'en faire profiter le plus grand nombre dans une forme un peu renouvelée. Et donc on a entendu parler à Lille de visites guidées et donc on s'est dit on va importer le concept à Rennes. Donc en fait, c'est un prétexte, c'est une balade dans Rennes, c'est pas une visite patrimoniale. On va de lieu en lieu féministe, locaux d'associations principalement, mais aussi lieux de meetings, de débats publics qui ont eu lieu dans les années 70 à Rennes. Et on fait des petites stations comme ça devant 5 lieux. Et on en profite pour expliquer l'histoire, pour relater l'histoire du planning familial, par exemple l'histoire des groupes femmes, du MLAC, du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, ou encore de Choisir Rennes. Voilà. Et cette forme, elle permet à des personnes qui n'ont pas envie de s'asseoir à une conférence, qui ont vraiment envie d'entendre parler du féminisme, mais d'une autre manière, eh bien, ça nous permet d'échanger avec ces personnes.
D'accord, donc là, il y a 5 lieux. Est-ce que c'était parce que finalement, Rennes était un petit peu pauvre, entre guillemets, en féministe dans les années 70, ou c'est un vrai choix?
Alors, c'est un choix, et c'est un choix pratico-pratique. On ne pouvait pas balader les gens de Villejean jusqu'à l'actuelle maison des associations. À l'époque, c'était la maison du Champ de Mars, ça faisait une trop grande envergure. Donc, on a rassemblé. Mais évidemment, il y avait d'autres lieux que ceux qu'on présente dans
D'accord.
la visite.
Qui sont symboliques au niveau du féminisme. Alors justement, vous avez publié récemment un journal, donc Rennes au féminisme, donc qui permet en fait aux Rennaises et aux Rennais de se balader tout seul en fait dans le Rennes des années 70.
Voilà, on voulait prolonger quand les visites guidées ont rencontré un succès auquel on ne s'attendait pas et qui nous a vraiment enchantés. Donc on s'est dit qu'il y avait une demande, qu'il y avait du besoin, et on a choisi avec l'aide d'une étudiante en beaux-arts de prolonger cette visite guidée en éditant un journal Rennes au féminisme qui reprend les différents lieux et en propose également d'autres, ce qui permet avec son petit journal, soit on fait la visite, soit on l'a dans le sac à main, et puis quand on passe dans un lieu, on se dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 à Rennes en termes de féminisme.
Alors on les trouve où, ces journaux?
Alors on les trouve dans 3 lieux, la librairie Planetio, la librairie Alphagraphe et au papier timbré.
D'accord, donc autour de Sainte-Anne.
Oui, voilà, c'est ça. Oui,
globalement. Oui. Et là, en février, mi-février, vous allez sortir, donc « Les femmes s'en vont en lutte », un livre justement qui retrace cette histoire du féminisme à Rennes, là dans une période un peu plus large. On n'est pas seulement dans les années 70, 65 à 85.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'était l'objet principal de l'association, c'était écrire un livre sur l'histoire des luttes féministes à Rennes. Donc, ça y est, on y arrive, on est vraiment contente. Et donc, le livre, il est effectivement plus complet que ce qu'on a pu dire dans les différentes conférences qu'on a organisées ou que ce qu'on peut dire dans les visites guidées. Et il est, comme vous l'avez dit, sur une période un peu plus large, qui correspond, grosso modo, à la deuxième vague, du féminisme.
D'accord. On sent un engouement quand même des femmes pour ce passé en fait, féministe, ces luttes quand même qui ont rassemblé énormément de femmes. Par contre, on sent une certaine frilosité pour les femmes d'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez justement ce paradoxe?
Oui, alors, et c'est nous, ce travail d'histoire, c'est aussi un prétexte pour remobiliser aujourd'hui sur le féminisme. En fait, l'histoire, c'est un excellent outil pour dire que rien ne s'est acquis facilement, que les droits des femmes, ce sont des conquêtes qui ont demandé beaucoup, beaucoup d'énergie. Et que les droits acquis, les droits conquis, sont des droits fragiles. Donc en fait, nous, on utilise l'histoire pour expliquer ça, pour dire qu'il n'y a pas du tout de sens naturel de l'histoire vers l'égalité. Oui, ça va se faire tranquillement, il suffit d'être patient. Non, l'histoire ne nous enseigne pas ça. Au contraire, ça a demandé énormément d'énergie. Mais oui, il y a, on sent, comme vous le disiez, une peur du féminisme aujourd'hui.
Vous rencontrez justement des gens qui viennent à vos visites, qui vous disent « Non, mais moi je suis là, mais je ne suis pas féministe, en fait. »
Voilà, donc en fait, c'est l'occasion de discuter et puis de déconstruire avec les personnes cette peur du féminisme. Qui peut s'expliquer par un traitement médiatique dans les années 70 très moqueur, très sur le mode du dénigrement, parce que le féminisme et les remises en question que ça engendre, en fait, ça touche tellement à l'intime que du coup, c'est des choses qui peuvent faire peur. Ça remet en question nos rapports quotidiens entre hommes et femmes.
Et justement, parce qu'il y a des vagues dans le féminisme, hein, on parlait justement là des années 60-80, donc qui correspondent plus à la deuxième vague du féminisme. Et aujourd'hui, justement, c'est un petit peu en débat. Est-ce que on est dans la quatrième vague du féminisme? Est-ce que c'est les fémines qui sont précurseurs de cette vague? Est-ce que justement, on n'est pas aussi dans une période un petit peu floue?
Oui, alors déjà, si on parle de quatrième vague, c'est est-ce qu'il y a une troisième vague? Voilà, c'est ça la question. On peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans le prolongement de la deuxième? Ou se dire, effectivement, il y a eu une rupture dans les années 80-90. Et à partir de la fin des années 90-2000, on a introduit ce qu'on peut appeler, par exemple, enfin, il y a plusieurs noms, mais ça peut être l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on prend aussi les autres rapports de domination, notamment les dominations racistes, pour complexifier les analyses avec les analyses de domination masculine. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est en fin de deuxième vague, en fin de troisième vague ou en début de quatrième vague? Moi, je pense, en tant qu'apprentie historienne, qu'il est trop tôt pour le dire. Oui. Mais c'est sûr que... On a beaucoup de questionnements sur la sexualité, alors qu'ils n'ont pas forcément été introduits par les fémines. Je pense qu'ils sont un peu antérieurs avec l'influence de la théorie queer, qui questionne beaucoup la sexualité et les catégories. Est-ce que homme-femme, c'est des catégories pertinentes? Est-ce que homo-hétéro, c'est des catégories pertinente? Est-ce que finalement c'est pas beaucoup plus fluide que ça n'en a l'air? Parce que homme, femme, homo, hétéro, c'est des catégories très binaires. Et donc la théorie queer remet en question ces catégories-là.
D'accord. Et justement, en parlant de remise en question, là, on a l'Espagne qui remet en question quand même le droit à l'avortement, dans certains cas, qui veulent restreindre pour seulement deux situations. Est-ce que l'Espagne est un cas à part? Est-ce qu'on peut, nous aussi, être touchés en France, justement, à force de tout banaliser, à force de rejeter comme ça massivement ce qui s'est passé par le passé? On va pas y arriver, nous aussi, à ça?
C'est un risque. Ce qui se passe en Espagne, c'est vraiment très, très triste pour les Espagnols. Le gouvernement avait annoncé qu'il le ferait. Je pense que les Espagnols n'ont pas forcément voté pour ça, mais le gouvernement fait ce qu'il a dit. Là, on est dans une situation en France avec un gouvernement qui, au contraire, a réaffirmé que l'avortement est un droit. Maintenant, quand on va sur Internet et qu'on tape avortement, on tombe sur un site officiel gouvernemental et non pas sur des sites d'associations anti-IVG. Donc ça, c'est vraiment important. Mais en France, on n'est pas à l'abri de régression. En Ille-et-Vilaine, on est dans une situation pas trop compliquée au niveau de l'avortement. Paris, la région PACA, c'est pas simple.
Non, il y a beaucoup de problèmes aussi au niveau des plannings familiaux qui perdent leurs moyens.
Voilà, c'est ça, manque de moyens dans les associations. Un délai qui finalement passe assez vite, le temps de s'en rendre compte, le temps de décider, de réfléchir, le temps d'obtenir des rendez-vous médicaux, ça passe 14 semaines, ça passe très 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 vite.
Bah oui, en effet. Alors justement, cette période, le droit à l'avortement et puis même le droit finalement de disposer de son propre corps, vous en parlez dans vos visites guidées, vous en parlez aussi donc dans le journal dont on parlait, Reine au féminisme, et puis j'imagine qu'on le retrouve forcément dans les femmes. S'en vont en lutte. Donc l'histoire du féminisme à Rennes de 1965 à 1985. Et tout ça, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur histoire-féminisme-rennes.blogspot.com. Merci beaucoup, Lydie Porret. Rassurez-vous, l'émission n'est pas terminée. On continue sur notre lancée. On s'intéresse encore au féminisme. Après Rome wasn't built in a day, je n'ai pas perdu mon accent, de Morshiba. Bonne écoute sur YAG Radio.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away
Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
On n'est pas retourné dans les années 70, hein, mais on a quand même fait un bond de 14 ans en arrière avec ce titre de Morshiba, dont je ne reprononcerai pas le nom en anglais. Mais en tout cas, Rome ne s'est pas construite en un jour, et il faut croire que l'idée d'un féminisme qui unit les hommes et les femmes non plus. Alors qui n'a jamais dit ou jamais entendu dire « je ne suis pas féministe, mais » En tout cas, chez Yeg, on l'a beaucoup entendu, et c'est toi Marie qui nous en parle. Marie, le mois dernier pour Yegmag, tu as interrogé des femmes sur ce qu'elles pensaient du féminisme.
Eh oui Marine, je suis allée à la rencontre de 10 femmes aux âges assez différents, de 18 à 55 ans, issues de tous les milieux sociaux afin de connaître leur point de vue sur le féminisme. Et elles ont toutes été très intéressées par le sujet et prêtes à répondre avec attention à mes questions. Leur point de vue bien sûr a été à chaque fois différent et s'est attardé selon chacune sur un axe en particulier, que ce soit l'éducation, l'emploi, les rapports hommes-femmes, les violences faites aux femmes et j'en passe. Mais avec, et ça a été donc mon premier constat, toujours en amont une phrase « Je ne suis pas féministe, mais je soutiens cette cause ». Comme si, peu importe l'âge, les femmes n'assumaient pas vraiment ce terme, bien trop engagées et stéréotypées à leur goût pour qu'elles puissent se revendiquer comme telles. Avec une représentation assez négative pour nombre d'entre elles de certains mouvements féministes plus revendicateurs. Cependant, toutes dans leur quotidien se sont rendues compte de près ou de loin, bien sûr, que des injustices persistaient et que le chemin vers l'égalité homme-femme restait bien fragile, voire même parsemé d'embûches. De ce fait, ces femmes ont déclaré soutenir cette cause avec des des préoccupations donc diverses. Pour certaines, les principaux enjeux se sont retrouvés dans le quotidien, dans la sphère familiale par exemple, sur la question des tâches ménagères, bien trop souvent réservées à la gente féminine, avec l'image bien ancrée de la femme au fourneau et au plumeau. Pour Julia par exemple, 18 ans, il faut que toutes les tâches soient réparties équitablement dans une vie de famille. En notant que pour nombre d'entre elles, tout cela doit être corrigé par l'éducation, et ce dès le plus jeune âge. L'emploi a été également un axe sur lequel il faut travailler pour ces femmes, sur la question des salaires, des postes à responsabilité, avec le concept du plafond de verre, cité par l'une des interviewées, qui représente de façon assez imagée les limites d'évolution de carrière auxquelles sont souvent confrontées les femmes à des hauts niveaux hiérarchiques. Et puis le sexisme a été aussi mentionné, sexisme sur le lieu d'activité, dans la rue et dans les médias. Cynthia, par exemple, 28 ans, m'a rappelé qu'en France, les blagues potaches ou encore les publicités sexistes font toujours partie de son quotidien, que ce soit au bureau, à la télévision ou encore avec son entourage proche. Un long chemin reste à parcourir pour faire évoluer les mentalités, m'a-t-elle expliqué. Toutes se veulent l'égale de l'homme, bien sûr, et aspirent à un respect mutuel avec lui. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart ne se reconnaissent pas dans la lutte des sexes. Pour Anne, 55 ans, il est important de lutter contre toute forme d'inégalité, celle subie par les femmes a fortiori, et si le féminisme veut asseoir sa crédibilité, et là je cite ces mots, il est nécessaire qu'il soit en mouvement, un mouvement de femmes et d'hommes au secours des femmes, et non plus un combat de l'être féminin contre l'être masculin. Dans l'Hexagone comme à l'international, c'est aussi le combat contre les violences faites aux femmes qui reste, d'après ces témoignages, l'un des enjeux majeurs de ce mouvement. En France ou dans le monde, des femmes subissent des violences dans toutes formes, qu'elles soient sexuelles, physiques et psychologiques. C'est plus que révoltant, c'est inhumain, m'a confié par exemple Lucie. Un domaine qui pourra évoluer dans notre pays à l'aide des associations mises en place pour ce genre de cause, qui pourront faire évoluer les peines carcérales encourues et l'assistance envers ces femmes, a également ajouté Agathe. Il faut savoir que dans certains pays, comme en Inde, les violences subies par les femmes sont encore bien souvent cachées et peu condamnées, même si la situation tend à évoluer très lentement, certes depuis la triste affaire du viol de la jeune étudiante de 23 ans à New Delhi, décédée des suites de ses blessures. Pour Emmanuel, Marie-Emmanuel, les vrais combats sont à l'international. Dans certains pays, on part vraiment de loin, m'a-t-elle expliqué. En Inde, un viol est commis par exemple toutes les 20 minutes. Dans d'autres endroits, l'adultère est puni par lapidation lorsqu'il s'agit d'une femme et rien lorsqu'il s'agit d'un homme. C'est tout simplement choquant. Voilà ce qu'il en résulte donc de ces témoignages, si l'on devait les résumer. Je ne suis pas féministe, mais il y a encore du boulot. Voilà comment on pourrait conclure. L'équilibre et les droits acquis restent donc fragiles. Alors heureusement qu'il y a des femmes engagées qui se mobilisent pour soutenir cette cause.
Merci Marie. En effet, il y a encore du boulot en matière donc de féminisme et puis plus largement d'égalité des sexes. Pas d'instant féministe aujourd'hui, je crois que c'est assez clair. Par contre, c'est sans transition qu'on passe à l'agenda. Et maintenant, l'agenda de la semaine avec toi, Marie.
Et oui, Marine, que se passe-t-il à Rennes Métropole du 15 au 22 janvier ? Bien de la danse et encore de la danse. Et pour noter, retenez la date du 17, 18 et 19 janvier au Garage, 18 rue André et Yvonne Meunier à Rennes, seront présentés par la compagnie d'Anna le festival Potlatch, qui signifie donner en amérindien. Un rendez-vous artistique où se mêleront culture française et brésilienne, portée par des personnes en situation de handicap ou non, et où seront programmées des pièces chorégraphiques, des danses, des vidéos de danse, des improvisations, des documentaires et des débats. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver ses places. Toujours dans l'univers donc de la danse, demain également à 20h au Liberté sera joué le ballet en trois actes Roméo et Juliette de Prokofiev, avec l'orchestre de l'Opéra National de Russie, une représentation romantique inspirée de la pièce de William Shakespeare. Et pour terminer également demain au Triangle de 21h à 1h du matin, boulevard de Yougoslavie, et dans le cadre de la nuit des 4 jeudis, une série de spectacles intitulés « La nuit, je mens » seront proposés sur le thème du mensonge et du canular, en compagnie d'artistes fabulateurs, inventeurs et parfois illusionnistes d'après le triangle.
Et oui, et on reconnaît là le titre d'une chanson donc de Bachung.
Tout à fait.
Donc la semaine dernière c'était théâtre, cette semaine c'est danse. C'est bien, tu nous fais des agendas thématiques.
Oui, j'aime bien.
Et ben c'est super. Allez, en tout cas vous l'aurez compris, l'actualité rennaise au féminin, elle est riche et heureusement elle continue sur yegmag.fr. Et on vous invite vivement à aller lire notre dossier consacré à ce qui fait peur dans le féminisme, dans lequel vous retrouverez Lydie Porret qui était avec nous dans Yeg Radio. Merci beaucoup Lydie. Merci. Et à très vite. Alors avant de se quitter, on mentionne juste le rassemblement donc, de soutien aux Espagnols samedi 18 janvier à 15h sur la place de la mairie. Et bien évidemment, on rappelle Rennes au féminisme et aussi les femmes s'en vont en lutte. Hein. C'est ce que vous retrouverez avec l'association Histoire du féminisme à Rennes. Je remercie toute l'équipe de Yeg Radio, Claude qui réalise cette émission, Marie Lelevier, journaliste pour Yeg. Hein. Encore une semaine chargée.
Ouh là là, oui, c'est bon. Le moins qu'on puisse dire, Marine.
En tout cas, vous allez voir le mois prochain les sujets que Marie traite vont être assez rigolos. Elle vous en parlera. Donc bien évidemment dans Yeg Radio. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse en compagnie de Thomas Guézou et de votre émission sur écoute. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans Yeg Radio la semaine prochaine. Même jour, même heure. Musique.